le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous attendre à lui. Et si nous nous confions en lui, nous ne serons point déçus. Alléluia. Nous passerons donc du temps, comme nous l'avons dit, pour prier pour tous ceux qui le désirent. Dieu est un Dieu de compassion, n'est-ce pas vrai? Oh, la compassion de Jésus, combien nous avons besoin de grandir dans ce domaine-là, moi le premier. Mais quelle libération, quel esprit de victoire, quel esprit de paix, lorsque cette compassion grandit en nous de plus en plus. Alléluia. Que son regard d'amour se pose sur nous, et que ses mains bénissantes guérissent, consolent beaucoup au milieu de nous. Alléluia. Gloire à ton nom. Le verset qui sera à la base de notre méditation cet après-midi sera le verset clé des Actes des Apôtres. Quel est le verset clé des Actes des Apôtres? C'est le verset qui ouvre la porte dans les Actes des Apôtres. Quel est le verset? Acte 1, verset 8. Ça, c'est le verset clé des Actes des Apôtres. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Jusqu'où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Et j'aimerais souligner tout particulièrement ce mot « puissance ». Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Les apôtres et les premiers chrétiens avaient besoin de puissance. Si les apôtres avaient besoin de puissance pour accomplir l'œuvre que Dieu leur demandait, à combien plus forte raison nous, aujourd'hui, nous en avons besoin, n'est-ce pas? Mais vous recevrez une puissance. Et moi-même, lorsque j'ai entendu pour la première fois parler du baptême dans le Saint-Esprit, je me suis dit dans le fond de mon cœur, c'est vrai, je suis chrétien, je suis né de nouveau, mais je réalisais qu'il me manquait quelque chose, et ce quelque chose, c'était quoi finalement? La puissance. Bien sûr, on grandit ensuite dans la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu était en plénitude dans la vie du Seigneur, n'est-ce pas? Et nous devons grandir dans cette puissance-là. Mais j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants et voir quels sont les effets de la puissance de Pentecôte dans nos vies. Quels sont les effets? Quand nous expérimentons la puissance de Dieu, il se passe quelque chose dans nos vies, n'est-ce pas vrai? Et quels sont ces effets? Les effets de la Pentecôte. Ce qui s'est passé dans les premiers apôtres et dans les premiers chrétiens, le Seigneur veut le réaliser aussi dans nos vies. Alors, je vais vous donner 7 effets. 7. Nous les verrons assez brièvement, mais j'aimerais quand même vous les donner tous. Le premier effet de la puissance de Pentecôte dans la vie des premiers disciples était celui-ci. Ils avaient une puissance pour rendre témoignage de Jésus. Et vous serez, qu'est-ce qu'il est dit, acte 1, et vous serez mes témoins. Témoins de qui? De Jésus. Alors, soulignons bien déjà cette pensée très importante. Premier effet de la puissance de Pentecôte dans nos vies, c'est une puissance qui rend témoignage de Jésus. J'insiste là-dessus, c'est vital. Le Saint-Esprit n'a pas été répandu pour nous montrer combien grands nous sommes, nous. Mais le Saint-Esprit a été répandu pour dire combien Jésus seul est grand. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Alléluia. Amen. Je le répète, ceci est vital. Le Saint-Esprit n'a pas été répandu pour dire combien nous sommes grands, ou combien telle église est grande, combien tel mouvement est grand. Non, le Saint-Esprit a été répandu pour dire combien Jésus est grand. C'est parce que Jésus a été glorifié, c'est parce qu'il s'est assis sur le trône, glorifié par le Père, que le Père ensuite lui a donné le Saint-Esprit et qu'ensuite il a répandu le Saint-Esprit sur ses enfants. C'est parce que le Père l'a glorifié, l'a pleinement élevé, que le Saint-Esprit a été répandu. Voyez-vous, le Saint-Esprit est répandu pour élever, glorifier et parler d'une seule personne de Jésus. Cela est très souvent oublié. Bien souvent, lorsque nous parlons de puissance, ou lorsque même nous rendons témoignage, nous rendons témoignage d'une expérience. Il n'est pas dit ici, vous recevrez une puissance et vous serez témoin de cette puissance, témoin de cette expérience. Quoique, on doit être témoin de cette expérience, ça fait partie de cela. Mais, avant tout, nous sommes témoins de qui? D'une personne. Amen. C'est pourquoi bien souvent, lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, nous parlons comme une expérience séparée de Jésus. Et bien souvent, nous entendons cela. Oh, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Oh, d'autres disent, j'ai rencontré tel mouvement qui m'a permis de rencontrer la puissance de Dieu. J'ai été touché par Dieu. J'ai fait telle expérience. Mais nous n'entendons même pas parler de Jésus. On n'entend pas, on entend parler de l'expérience, mais pas de Jésus. Et cela existe aujourd'hui. On dit que, oui, expérience par-ci, visitation par-là, mais Jésus est le grand inconnu. Et c'est pourquoi nous risquons de manquer le but de la visitation du Saint-Esprit lorsque nous ne réalisons pas que si Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit, c'est pour être témoin de Jésus et de Jésus seul. Et vous serez mes témoins. Bien sûr, lorsqu'on parle de Jésus, on parle du baptême dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais on met l'accent sur Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Amen. Et si vous ne mettez pas l'accent sur Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, je commence à lire certains ouvrages, et peut-être que vous-même, vous avez lu certains ouvrages, dans certains milieux chrétiens, on commence à dire qu'une autre personne baptise dans le Saint-Esprit. Certains vont même dire que c'est Marie qui baptise dans le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, ceci est vital. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas l'accent sur le point essentiel. Si Dieu nous visite, c'est pour glorifier une seule personne au milieu de nous, Jésus. Amen. Amen. Sinon, nous risquons de dévier. Et la puissance qui agira au milieu de nous, si elle ne glorifie pas le Seigneur, ce n'est plus la puissance du Saint-Esprit. Un test. Pour savoir si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, cette personne est remplie de Jésus. Amen. Amen. C'est le test. Mais pour certaines personnes, ils ont 10 autres noms dans leur bouche et Jésus, de temps en temps, on parle de lui. Alors, il faut bien qu'on en parle, parce que quand même, ce serait dommage de ne pas en parler. Mais on entend toutes sortes d'autres choses. Oh, mes chers amis, ne l'oubliez pas. Quand Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit, c'est pour parler de lui et de lui seul. Alléluia! Nous parlerons du baptême dans le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est une rencontre avec Jésus. C'est une nouvelle rencontre avec Jésus. Ce n'est pas la rencontre avec une autre personne. Cela n'a rien à voir avec l'enseignement de la parole de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une nouvelle rencontre avec le Seigneur de gloire, le Seigneur glorifié. Et ce Seigneur, c'est Jésus. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire alléluia. Et plus nous aurons à cœur de glorifier le Seigneur, plus le Saint-Esprit agira. Mais vous le remarquerez, plus Jésus est mis de côté, plus nous avons honte de parler de Jésus. C'est incroyable. Mais on peut même avoir honte de parler de Jésus. C'est incroyable. Mais moins nous parlons de Jésus, plus le Saint-Esprit s'éloignera de nous. N'est-ce pas vrai? Alléluia. La divine colombe est venue pour glorifier une seule personne. Voilà pourquoi, mes chers amis, ici, comme vous l'avez remarqué, nous parlons de qui ici? De Jésus. Je ne veux savoir parmi vous autre chose que l'apôtre Paul disait, que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Amen. Il est le centre, il est le but, il est le fondement de notre vie. Il n'y en a pas d'autre, point d'autre. Et plus nous serons fermes sur ce fondement, plus l'Esprit de Dieu agira au milieu de nous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Une puissance pour témoigner de Jésus et de personne d'autre. Gloire à Dieu. Amen.
Amen.
Ça, c'est vital. Jésus. Jésus seul au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Un deuxième effet de la puissance de Pentecôte, c'est une puissance qui nous donne du courage. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit des apôtres. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils étaient pleins d'assurance. Voilà la puissance, l'effet de la puissance de Pentecôte. C'est une puissance qui nous communique du courage. Et Pierre était le premier à en avoir besoin. Lui qui a renié le Seigneur devant qui? Une jeune servante qui a commencé à lui parler et lui dire « Toi aussi, tu faisais partie du groupe, là. » Et Pierre a commencé à dire « Non, qu'est-ce que tu dis là? Je ne comprends pas ce que tu dis. » Et la servante a insisté « Mais si, je te reconnais aussi à ton accent. Tu as un petit accent. Ce n'était pas l'accent marseillais. » ou l'accent vaudois. Mais il avait un petit accent galiléen. On te reconnaît. Et Pierre dit non, non, devant cette petite fille, cette servante. L'apôtre Pierre a renié son maître. Mais regarde, remarquez ce qui se passe. Après qu'il ait reçu la puissance du Saint-Esprit, lui qui a renié son maître, qu'est-ce qu'il dit? Alors qu'il est rempli du Saint-Esprit devant la foule tout entière, devant les milliers de gens. Et il leur dit dans sa prédication, « Vous avez renié le Saint et le Juste. » Quel toupet! Il n'avait pas du toupet, il avait du courage. Pourquoi? Parce que c'était un nouvel homme qui parlait. Alléluia! Le vieux Pierre était passé à la croix. Le vieux Pierre avait disparu avec son reniement. Et maintenant rempli du Saint-Esprit, c'était un homme rempli de Jésus. Quand il n'était pas rempli du Saint-Esprit, il était rempli de lui-même, il était rempli de Pierre. Et quand on est rempli de nous-mêmes, on est rempli de toupet. Il y a une grande différence entre le toupet et le courage. Dans le toupet, c'est nous-mêmes. Nous sommes remplis de nous-mêmes. Quand on dit que quelqu'un, il a du toupet, vous voyez, c'est quelqu'un qui se place toujours en avant. C'est lui, c'est lui. Regardez-moi bien. Observez bien comment je prie, comment je parle, comment je témoigne. Regardez-moi bien. Prenez des photos pendant que vous y êtes. Des diapositives.
Vite, vite, allez chercher des appareils. Prenez des photos, c'est le moment. Remplis de nous-mêmes, remplis de toupet. Mais voilà, Pierre, c'est un autre homme. Il est maintenant rempli du Saint-Esprit. Et parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de courage. Il est un nouvel homme. Et c'est pourquoi il peut dire aux autres, maintenant, vous l'avez renié. Voyez-vous, c'est ce qui est formidable lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Là où nous étions faibles, eh bien le Seigneur vient guérir ce qui était faible en nous. Ces blessures, ces meurtrissures qui en nous étaient vraiment des points faibles. Voilà que maintenant, le Saint-Esprit vient guérir cela. Et sur nos points les plus faibles, nous devenons les plus forts. Alléluia! C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ne vous découragez pas. Combien d'entre nous, nous nous lamentons sur nos points faibles? Ne te lamente pas sur tes points faibles. Rempli du Saint-Esprit, tu deviendras fort et très fort même sur les points faibles. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre a été utilisé par le Seigneur. Oh, quand il leur disait, vous avez renié le maître, ce n'était pas dans un esprit de condamnation, mais c'était dans un esprit de brisement. Je suis sûr qu'il y avait des larmes dans ses yeux. Il ne pointait pas le doigt vers eux pour leur dire, vous ne valez rien du tout. Mais non, dans le fond de son cœur, il disait, et il pensait, c'est vrai, vous avez renié le maître, mais moi aussi, je l'ai renié. Moi aussi, j'ai fait cela. Je vous comprends, parce que je suis passé par là, et Jésus m'a délivré. Et s'il m'a délivré, il veut vous délivrer aussi. Oh, alléluia, alléluia! Mon cher ami, peut-être que tu as renié le maître, peut-être que tu as renié le Seigneur devant une servante, peut-être que dans telle ou telle circonstance, tu te sens totalement indigne, parce qu'il y a telle chose qui t'accable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Recherche la puissance de l'Esprit, et cette puissance te remplira et viendra te rendre fort sur tes points les plus faibles. Alléluia! Et c'est pour cela que Dieu veut t'utiliser. Savez-vous que vos expériences, même négatives, Dieu veut les utiliser? Combien d'entre nous nous sommes paralysés par nos expériences négatives? On se dit, c'est un échec, je suis fichu, Dieu ne peut plus m'utiliser, loin de là. Dieu a utilisé Pierre justement après, il était humain, il pouvait ensuite comprendre les autres, parce qu'il était passé par là, n'est-ce pas vrai? Alléluia! Quelles que soient vos expériences passées, le Saint-Esprit opère cela dans nos vies. Il dit, mon enfant, tu as été un fiasco dans le passé, je connais tes faiblesses, mais maintenant, moi, je vais te rendre fort, je vais te guérir, je vais te transformer, et je vais t'envoyer vers ces personnes même qui te ressemblaient autrefois. Je t'envoie vers eux. Et tu ne vas pas partir avec un esprit de condamnation, parce que tu sais qui ils sont. Et tu sais, parce que tu es passé par là, parce que tu as eu les mêmes sentiments qu'eux, parce que tu as eu les mêmes faiblesses qu'eux, parce que tu as eu les mêmes péchés qu'eux, tu iras avec eux dans un esprit de compassion. Et parce que tu iras près d'eux, avec un esprit de compassion, je veux t'utiliser. Alléluia! La compassion de Jésus passera au travers de toi, et Dieu t'utilisera. Alléluia! Voilà pourquoi tu auras une sainte hardiesse. Ils étaient remplis d'assurance, même sans instruction. Mais ils avaient été avec Jésus. Alléluia! Oui, mon frère, ma sœur, Dieu veut te donner du courage là où tu as été le plus faible. Rempli du Saint-Esprit, c'est la réponse à ton problème. Amen.
Amen.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Une puissance pour un témoignage de Jésus. Une puissance pour nous rendre courageux. Jésus a dit, prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Alléluia. Bien souvent, Jésus disait aux gens qu'il abordait de prendre courage. Il a dit cela à ses disciples avant qu'ils s'en aillent. Mais il a dit cela aussi aux pécheurs. Un jour, alors que quelqu'un était dans le péché, il lui a dit, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Un malade aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Mon enfant, prends courage, ta foi t'a guéri. Alléluia. Voyez-vous, le courage est important pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Prends courage, mon enfant, prends courage. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Et cet esprit est un esprit de courage. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de crainte, pas du tout. Cela veut dire que malgré ta crainte, malgré ta peur,
le Saint-Esprit t'utilisera. Amen. Il y en a qui pensent que être plein de courage, c'est ne pas avoir de crainte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est justement le contraire. C'est agir malgré la crainte que nous avons. Si nous n'avons pas de crainte pour faire quelque chose, est-ce que nous avons du courage? Nous n'avons pas de courage. Le courage n'existe pas si nous n'avons pas peur de faire quelque chose. Le courage existe justement lorsqu'on a peur de faire quelque chose. Et malgré cette crainte, malgré cette peur, Dieu veut nous utiliser. Amen. Amen. Mes chers amis, ne vous laissez pas paralyser par vos craintes, par vos complexes. Combien d'entre nous sont paralysés par des complexes? Et je vous comprends. Moi aussi, j'étais complexé. Si je vous disais que moi, j'étais le garçon le plus timide du monde. Il y en a qui m'ont connu ici. Eh bien, je vous assure, j'étais le jeune homme le plus timide du monde. Et ce que je fais maintenant, c'est un véritable miracle. Jamais j'aurais pu me tenir devant un auditoire comme cela. Jamais. Timide, complexé, esclave de bien des passions. Je sais d'où le Seigneur m'a sorti. C'est pourquoi il y a l'espoir pour chacun d'entre nous. Alléluia. Mais Dieu voit le fond de notre cœur. Alléluia. Ce que le diable a détruit dans ta vie, Jésus veut le reconstruire. Alléluia. Ce que le diable a ôté de ta vie, Jésus veut le remettre. Ce que le diable a mis dans ta vie, Jésus veut l'ôter. Oh, il est plein de compassion, une puissance qui nous rend courageux. Gloire au Seigneur. Dieu veut te rendre fort sur tes points les plus faibles. Crois-le tout simplement. Sois rempli de l'Esprit. Ne sois pas obsédé par tes complexes. Cherche tout simplement à être rempli du Saint-Esprit. Et tu verras que petit à petit, ces choses disparaîtront. Alléluia. Une troisième puissance maintenant. Cette puissance est une puissance de guérison. Une puissance de guérison. La puissance du Saint-Esprit est une puissance de guérison. Actes chapitre 3. Comment est-ce que des milliers d'âmes aussi sont venues au Seigneur? Par la guérison de qui? D'un paralytique. Qui était paralysé depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans. Et la guérison de cet homme a fait une brèche dans l'église primitive. Et c'est cette puissance-là, la puissance de la guérison. Et l'Esprit de Dieu est un esprit qui communique la vie. Alléluia. Et cet après-midi, l'esprit de guérison veut agir dans ton corps. Ouvre-toi à sa puissance. Ne dis pas est-ce qu'il peut. Ne dis pas est-ce qu'il veut. Mais mon ami, Dieu veut, Dieu peut. Ne le limite pas. Ouvre ton cœur seulement. Et dis-lui merci Seigneur. Je veux recevoir ta puissance de guérison. Sa puissance est plus forte que toutes tes maladies. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Jésus peut le faire. Ne doutons pas de sa puissance de guérison. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres aussi, au chapitre 8, avec Philippe, comment est-ce qu'il y a eu un réveil en Samarie? C'est avec les miracles que Dieu faisait au travers de Philippe. Et il est dit que beaucoup de malades étaient guéris, des boiteux, des paralysés, des mauvais esprits quittaient les démoniaques en criant. Et il y avait une grande joie dans cette ville. Amen. Oh oui, les gens se réjouissent lorsque Dieu agit. N'est-ce pas merveilleux? Et encore aujourd'hui, cette puissance est une puissance de guérison et de miracle. Nous devons le croire de plus en plus. Gloire au Seigneur. Et vous qui priez pour nous, pour la Martinique, priez tout spécialement pour que la puissance miraculeuse du Seigneur se manifeste pendant cette campagne. Alléluia! Car nous ne voulons pas aller là-bas pour faire des beaux discours. Nous voulons aller là-bas, leur apporter, comme Philippe l'évangéliste, leur apporter la bonne nouvelle de Christ, et que ça a la puissance de guérison de Jésus, fasse des miracles pour que des multitudes soient sauvées. Alléluia! Pour que des multitudes soient sauvées. Gloire à Dieu! Pourquoi est-ce que des multitudes aujourd'hui se tournent vers les guérisseurs? Pourquoi est-ce que des multitudes se tournent vers des charlatans aujourd'hui? Écoutez-moi bien une chose. Pourquoi? Même des chrétiens vont chez ces gens. Même des chrétiens. Pourquoi? Parce que l'Église a une responsabilité là-dedans. Parce que l'Église ne prie plus pour les malades. L'Église a perdu cette compassion. Et parce que l'Église ne fait pas ce que Dieu lui demande, alors les gens se tournent là où ils peuvent. Le monde se tourne là où ils peuvent. Ils veulent être guéris. Mais parce que l'Église n'est pas fidèle dans ce domaine-là, eh bien les gens se tournent vers le monde, vers les puissances mauvaises. Chers amis, nous avons une responsabilité, vous ne croyez pas? Dans chaque Église, on devrait prier pour les malades. Chaque Église devrait être un centre de prière, de compassion pour les malades. Je ne veux pas dire que toujours tous seront guéris. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, même avec Jésus. Savez-vous, même avec le Seigneur, tous les malades n'étaient pas guéris. Bien souvent, on veut nous faire croire, mais avec Jésus, tous étaient guéris. Pour se moquer un petit peu de ceux qui prient pour les malades. Je les vois arriver, ceux-là. Plusieurs autres ne sont pas guéris. Oui, comme pour dire, quand Jésus, lui, priait pour les malades, ils étaient tous guéris. Ah oui? Est-ce que vous avez bien lu votre Bible? Où est-ce qu'il n'a pas pu faire des miracles aussi? C'était où? À Nazareth, dans sa patrie. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Et il dit qu'il guérit seulement quelques malades. Et dans le texte grec, le mot malade ici, ce n'est pas des miracles. C'est quelques des malades, mais dont, qui étaient donc des petites guérisons. Des toutes petites guérisons. Et pourtant, Jésus avait tous les dons. Il avait tous les dons de guérison, il avait tous les dons de miracle, n'est-ce pas vrai? Tout était là, la puissance de Dieu était là, mais Dieu, le Seigneur n'a pas pu agir. Ne dites pas que Jésus a toujours guéri tous les malades, il voulait les guérir, attention. Il était prêt à les guérir, mais les autres n'étaient pas prêts à recevoir la guérison, à cause de leur incrédulité. Il était là, plein de compassion, mais à cause de leur incrédulité. Voyez-vous, Jésus veut agir, mais... Parfois, il y a de l'incrédulité. C'est pourquoi nous devons toujours, lorsqu'on prie pour les malades, vous avez votre responsabilité. L'auditoire a une responsabilité. Le prédicateur a une responsabilité, mais l'auditoire aussi. Vous avez une responsabilité. Avez-vous compris cela? Si l'Église comprend cela, eh bien, Dieu pourra faire de plus grands miracles au milieu de nous. La guérison n'est pas seulement l'œuvre d'un évangéliste ou de quelques spécialistes. La guérison est le ministère de l'Église entière. Comme je le dis souvent, lorsque un membre est malade, supposons que mon doigt ici est une infection. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Toutes les cellules de notre être, qu'est-ce qu'elles font? Elles se concentrent vers ce mal pour chasser l'infection. N'est-ce pas vrai? Toutes les cellules, notre corps est fait ainsi. Toutes les cellules de notre être se rassemblent, se concentrent pour chasser la maladie. Et il en est de même dans le corps de Christ. Lorsqu'un membre est malade, alors qu'est-ce qui se passe? Tous les membres devraient, comme les cellules d'un corps, devraient être unis pour prier pour la personne malade. Et laissez-moi vous dire, lorsque nous sommes dans un tel esprit, alors la puissance de guérison se manifeste beaucoup plus librement. Combien de fois nous l'avons vu nous-mêmes, comme nous avons prié pour des milliers de personnes déjà, et nous avons pu faire quelques constatations. Là où les chrétiens sont assemblés vraiment avec nous, dans un esprit de prière, de compassion, lorsque nous sommes comme un seul homme, lorsque nous sommes un tous ensemble pour prier pour les malades, pleins de compassion et de foi, la guérison coule comme un fleuve. Mais lorsque nous observons que les gens sont là, les chrétiens assis et observent, sans aucune participation à la prière, alors les guérisons sont très difficiles à se manifester, mes chers amis. Très difficiles. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est attristé. Ceci est une vérité capitale. 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 Une puissance de guérison. Alléluia. Allons plus loin. Quatrième effet de la Pentecôte dans nos vies, de la puissance de Pentecôte, c'est une puissance de sainteté. Ne l'oublions pas, le Saint-Esprit est un esprit saint. Cela, nous l'oublions aussi. Le Saint-Esprit est un esprit saint. Et plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus la sainteté de Jésus doit paraître et transparaître dans nos vies. Chers amis, vous le savez comme moi, un moteur qui est propre est un moteur puissant. Un moteur de voiture qui n'est pas propre, est-ce qu'il est puissant? Il y a des ratés. Un moteur qui n'est pas propre, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup d'à-coups. Et puis tout à coup, ça cale. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Et ils calent, ils sont calés. On a l'impression que ça démarre. Mais à peine démarré, pouf, ça s'arrête tout de suite. Il y a des blocages. Le moteur n'est pas propre. Ils ont été bénis une fois. Même lorsque leur moteur n'était pas propre. Et ils ont pensé que Dieu était d'accord avec cette poussière et cette saleté qui était là et que ce n'était pas aussi grave aux yeux de Dieu. Et ils ont dit, oh, c'est rien, puisque Dieu m'a béni, puisque c'est une grâce, on peut continuer comme cela. Non, mes chers amis, quand l'Esprit de Dieu agit en nous, parfois il passe sur certaines choses, mais c'est toujours en vue de nous purifier, de nous rendre semblables à Jésus. Ne l'oublions jamais. Amen. Acte chapitre 4, verset 33, qu'est-ce qu'il est dit des premiers chrétiens? Acte 4, 33, il est dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Voyez-vous, la puissance de guérison ici est liée avec l'esprit de grâce des apôtres. Voyez-vous, la puissance avec la grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est l'esprit de sainteté. C'est la grâce, c'est quoi? C'est ressembler à Jésus. La sainteté, c'est quoi? C'est ressembler à Jésus. Beaucoup de gens ont de fausses notions sur la sainteté. Certains pensent que être saint, c'est ne pas faire ceci, c'est ne pas faire cela. Certains pensent que la sainteté, ce sont des attitudes extérieures, des habitudes extérieures. Non, mes chers amis, la sainteté n'est pas cela. La vraie sainteté, c'est ressembler à Jésus. Alléluia. Il y a une beauté dans la sainteté. Parce qu'elle est pleine de grâce. Parce qu'elle ressemble à Jésus. Amen. Donc, si Dieu veut agir davantage dans notre vie, nous devons veiller à ce que la sainteté augmente dans notre vie. Et que nous soyons de plus en plus ressemblants à Jésus. Cinquième effet de la puissance de Pentecôte, c'est une puissance d'amour, d'amour. Nous y revenons aussi là, Acte 2, 46-47. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit là aussi, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient donc véritablement dans un esprit d'amour. Voilà pourquoi on parlait des premiers chrétiens en disant, voyez comme ils s'aiment. Nous ne pouvons pas dépasser ce stade-là. Voyez comme ils s'aiment, la puissance de la Pentecôte, les effets de cette puissance font de nous des hommes et des femmes qui aiment davantage. Alléluia! Cela est vital aussi. Nous devons grandir dans cet amour. Et plus cette compassion se manifeste entre nous et au travers de nous, l'Esprit de Dieu se manifestera avec beaucoup plus de liberté. Je l'ai vu dans ma propre vie, dans la prière pour les malades tout spécialement. Quand j'ai prié pour les malades, sans être conscient de la compassion de Jésus pour ces malades, l'Esprit de Dieu n'agissait pas librement. Mais lorsque je faisais l'effort de dire « Seigneur, il n'y a pas d'histoire, je ne veux pas prier pour les malades machinalement, mécaniquement, comme pour dire « Allez, venez vite ici, allez, allez, on n'a pas le temps, on a 5 minutes pour faire tout ça, allez, allez, venez vite là. » Pas de compassion, rien du tout. Et on est étonné que Dieu n'agisse pas. Non, mes chers amis, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Nous devons aimer les malades pour lesquels nous prions. Amen. Nous devons aimer les personnes auxquelles nous témoignons. Nous devons aimer les frères à qui nous prophétisons. Nous devons aimer ceux auxquels nous nous adressons. Chers amis, ceci est vital. Si vous n'aimez pas la personne vers laquelle Dieu vous envoie, Dieu ne pourra pas vous utiliser. Ne l'oubliez pas. Combien de fois nous sommes déçus dans notre travail, dans notre témoignage, et on se dit, mais il n'y a pas assez de fruits. Pourtant, j'ai dit la vérité. Mais nous avons oublié une chose, c'est que la vérité doit être prêchée dans l'amour. Amen. La vérité doit être prêchée dans l'amour. Certains prêchent la vérité sans amour. C'est des coups de massue. Ah, ils sont champions spécialistes de la matraque. Entendez un petit peu, et c'est la vérité que je vous dis ici. Et alors on assomme les gens à coups de versets bibliques, n'est-ce pas vrai? Ça existe, ça, malheureusement. Mais il n'y a aucune compassion pour la personne. La personne, quand elle entend cela, elle se sent rejetée, elle se sent condamnée. Elle ne se sent pas aimée. Et les plus belles vérités que vous pouvez annoncer à quelqu'un que vous n'aimez pas ne seront jamais acceptées. Ne seront jamais acceptés. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme cela que ça se passe. Et les autres, malheureusement, tombent dans l'autre extrême. Il y a ceux qui prêchent l'amour sans la vérité. Alors, il y a beaucoup de paroles mielleuses. Oh, nous sommes tous frères. Oui, je t'aime, je t'aime. Mais nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cette personne. Nous savons qu'il y a des choses qui déshonorent Dieu. Et nous disons, non, non. Je l'aime, on l'aime, il faut l'aimer. Mais dites-moi, il faut aimer la personne, c'est vrai. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il aimait les pécheurs, mais il haïssait le péché. Il faut qu'il y ait cet équilibre dans notre vie. Nous devons aimer le malade, mais haïr la maladie. Nous devons aimer le drogué et haïr la drogue. Nous devons aimer le pécheur, mais haïr le péché. Voilà pourquoi la puissance de Jésus était grande, une puissance d'amour. Amen. Oh, que Dieu nous donne de réaliser toujours plus cela. La compassion, mes chers amis, peut littéralement transformer quelqu'un. Alléluia. La compassion libère quelqu'un, transforme quelqu'un. Oh, veillons à en être remplis davantage. Et lorsque vous faites quelque chose, posez-vous la première question que vous devez vous poser, celle-ci. Est-ce que j'aime la personne auquel je vais parler? Est-ce que je l'aime? Si je ne l'aime pas, alors il vaut mieux se taire. Mais si je l'aime, alors Dieu vous enverra et vous rendra en bénédiction. Amen. Ceci est vital. Ce sont des choses toutes simples que je vous dis. Mais mes chers amis, ce sont dans ces choses toutes simples que beaucoup d'entre nous nous échouons. Nous savons beaucoup de choses. Mais les choses essentielles, nous les négligeons. Et pourtant, la puissance de Dieu est là. Dieu a un ministère extraordinaire pour chacun d'entre nous. Nous pouvons faire de grandes choses simplement si nous savons aimer de tout notre cœur. Amen. Dieu vous utilisera. Partez d'ici avec un cœur rempli d'amour et vous verrez que Dieu vous utilisera. Dieu vous utilisera même pour dire les vérités les plus dures. Mais parce que vous les dites dans un cœur plein d'amour, ces vérités seront acceptées. Ne l'oubliez pas, il n'y a que la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et plus nous sommes remplis de cet amour, plus la vérité annoncée produira des effets miraculeux. Oh, alléluia! Voyez comme il s'aime. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Allons plus loin. Sixième effet de la puissance de Pentecôte dans nos vies. Cette puissance est une puissance qui nous donne la force de combattre Satan. Amen. Voilà un autre point très important. La puissance que Dieu nous donne est une puissance pour combattre Satan. Dans Acte 8, là aussi avec Philippe, qui avait un peu ensorcelé un peu tous ces gens? C'était qu'il y avait un magicien qui s'appelait comment? Simon le magicien. Et les gens disaient de lui, c'est par la puissance de Dieu, la grande, qu'il fait tous ces miracles. Mais quand Philippe est venu faire des miracles extraordinaires, les gens ont vu quelque chose de plus puissant, de plus grand et de plus vrai. C'est pourquoi ils l'ont abandonné et ils se sont tournés vers le Seigneur. Amen. La puissance de Dieu est plus forte que toute la puissance du diable. Alléluia. C'est pourquoi vous n'avez pas à craindre. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'as rien à craindre, mon enfant. Tu n'as rien à craindre. Un homme avec Dieu, c'est une majorité. Et 100 000 hommes sans Dieu, c'est une pauvre minorité. Amen. Un homme avec Dieu, c'est une majorité. Oui, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La puissance qui est avec toi est plus forte que toute la puissance du diable. Ne crains point. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, alléluia! À la croix, Satan a été vaincu. À la croix, nous avons été libérés de la puissance de Satan. Nous sommes libres. Oh, alléluia! Quand nous commençons à confesser notre libération de la main de Satan. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Oh, il ne faut pas trop parler de Satan, parce que si on parle trop de lui, eh bien, il peut nous arriver ceci et cela. » Autrement dit, ils ont peur du diable. Mais ils ne connaissent pas ce que la Bible dit du diable. La Bible dit que maintenant, nous n'avons plus à avoir peur du diable. La Bible dit que c'est le diable qui a peur de nous. Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous à Dieu. » Ensuite, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ah, j'aime ce verbe fuir. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire fuir? Vous le savez comme moi. Si je fuis devant vous, c'est que j'ai peur de vous. C'est que je suis paniqué. Excusez mon expression. Je suis paniqué. Et la Bible dit, si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Autrement dit, s'il fuit, c'est qu'il a peur de vous. Et il est dit, il fuira de qui? Loin de qui? Loin de... Il n'est pas dit loin de Jésus, avez-vous remarqué? Parce qu'il sait qu'il doit fuir loin de Jésus. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous devons savoir qu'il doit fuir loin de nous. Amen. Il n'est pas dit fuira loin de Jésus, mais bien sûr qu'il fuit loin de Jésus, c'est pas un problème. Mais c'est toi qui dois savoir, il fuira loin de toi. Amen. Cela veut dire que tu ne dois plus avoir peur du diable, c'est le diable qui a peur de toi. Amen. Et c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous rend capables de cela. Sans être remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dire cela. Et quand quelqu'un dit « moi j'ai peur du diable », c'est une preuve que cette personne n'est pas remplie du Saint-Esprit. C'est tout simplement ça. Mais lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'avons plus peur de lui. C'est lui qui a peur de nous. Alléluia! Oh, gloire au Seigneur! Voilà pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas un luxe. Les puissances mauvaises se déchaînent plus que jamais aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Le diable sait que ses jours sont comptés et il veut séduire le maximum d'entre nous, même les chrétiens. C'est pourquoi il veut nous faire peur. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Ils, son Saint-Esprit nous donne une puissance qui le fait fuir loin de nous. Alléluia. Oh, j'aime ça. Amen. Et n'aie pas peur de le dire, Satan, ôte ta main de ma femme, ôte ta main de mes enfants, ôte ta main de mon mari, ôte ta main de des membres de ma famille, commencez à la maison. Là, il ne s'agit pas de courir un peu à gauche et à droite, partout, pour essayer de résister au diable. C'est à la maison d'abord que ça doit commencer. Amen. À la maison, c'est là que Dieu vous a placé. C'est là que, mari et femme, vous devez prendre votre position devant les puissances mauvaises. Et vous devez dire, Satan, maintenant ça suffit, tu ne touches pas mes enfants, tu ne touches pas mon épouse, tu ne touches pas mon époux. Va-t'en au nom de Jésus. Alléluia. C'est là que ça commence, c'est là qu'il faut tenir ferme, c'est là qu'il faut résister. Bien souvent nous disons, pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? N'est-ce pas vrai? Quand il y a des difficultés. C'est toujours une question qu'on pose. Mais moi, je vais vous dire une autre question qu'il faut poser maintenant. Et Dieu vous pose, lui, cette question-là. Il vous dit, au lieu de dire toujours pourquoi Dieu a permis cela, le Seigneur vous dit, pourquoi est-ce que vous, vous permettez au diable d'agir? Ah bon? Oula, ah, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Ah bon? Je peux permettre au diable d'agir? Eh oui. Si tu ne lui résistes pas, qu'est-ce qu'il fait, le diable? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui... Il dévorera. Et la version littérale dit, cherchant qui se laissera dévorer. Ça change complètement. Beaucoup d'entre nous, nous nous laissons dévorer par le diable. Le diable ne peut rien faire, voyez-vous. Il ne peut rien faire. Il ne peut faire que lorsque nous le laissons agir. Si vous le laissez faire, il vous dévorera. Mais si vous ne le laissez pas faire, il ne peut rien faire. Amen. Il ne peut pas, il ne peut pas, il n'a pas le droit, il est lié, il est vaincu. La croix l'a dépouillé de toute autorité sur vous, si vous êtes enfant de Dieu. Il est dépouillé, il n'a pas le droit. Mais vous ne devez pas vous laisser faire. Une puissance qui nous rend capables de résister au diable. Amen. Oh, alléluia. Commence à la maison, commence à prendre ta victoire. Commence à planter la croix dans ton foyer, avec toutes les difficultés. Les tentations, les problèmes qu'il y a. Commence à dire ici, c'est Jésus qui gouverne. C'est Jésus le maître. Satan, tu n'as rien à faire dans ma famille. Va-t'en au nom de Jésus. Et maintenez cette position. Vous verrez qu'il doit fuir. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix viendra dans votre foyer. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On en est où? Sixième? Alors, je vais vous donner... C'est six, hein? Alors, il faut donner le septième maintenant. Le septième. Un autre effet de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, c'est une puissance qui nous donne la persévérance. Amen. Alors ça c'est beau aussi. Acte 2, combien? Vous connaissez ce passage? 2 combien? 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Voyez-vous, c'est là un des tests les plus importants de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Quand la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, nous persévérons. Voyez-vous, ce n'est pas une œuvre qui dure le temps d'une convention. Ce n'est pas une œuvre qui dure un jour, deux jours, quinze jours. La puissance du Saint-Esprit est une puissance qui nous rend persévérants. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas d'échec, pas du tout. Moi, j'ai ma propre définition d'un vainqueur. Un vainqueur n'est pas celui qui n'a pas de défaite. Un vainqueur est celui qui refuse la défaite. Amen. Un vainqueur peut tomber, mais il se relève toujours. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais chaque fois il se... relève, alléluia. C'est cela la persévérance, c'est persévérer malgré les échecs, malgré les problèmes, malgré nos insuccès, malgré tout ce qui n'a pas été, il persévère, alléluia. Et si vous êtes décidé à persévérer, le Saint-Esprit sera là avec vous, alléluia. Alléluia, à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. Nous devons vaincre, ne vous laissez pas arrêter, chers amis, la puissance du Saint-Esprit là. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Amen. Je vais terminer là. Persévérons, mes chers amis. Persévérons. Certains sont guéris tout de suite, d'autres pas tout de suite. Certains sont délivrés tout de suite, d'autres pas. Il y a des problèmes peut-être dans votre vie, ou
Vous avez prié et il n'y a pas de réponse. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Persévérez. La persévérance est une puissance. Ne l'oubliez pas. Et c'est cela qui était la qualité des premiers chrétiens. Ils étaient persévérants. Persévérants. Alléluia. Ils ne se laissaient pas arrêter. Découragez le diable par votre persévérance. Amen. Découragez-le. Découragez-le. Persévérez. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Gloire à Dieu. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, voyez, dans la parole, dans la communion, dans la prière, dans la fraction du pain. Ils persévéraient. Ils persévéraient. Persévérons ensemble en obéissant à la parole de Dieu. Dans la communion, persévérons. Persévérons et la victoire nous appartient. Amen. Alléluia. Jésus nous attend là-haut, il nous attend les bras ouverts, il vous dit encore maintenant, mon enfant, persévère, tu es dans les derniers mètres de la course, alléluia, c'est les derniers mètres, tu as bien démarré, c'est les derniers mètres, cours, je sais que tu es fatigué, je sais que tu transpires comme moi maintenant, tu transpires, mais c'est les derniers mètres, regarde la ligne d'arrivée là, et le Seigneur t'attend à la ligne d'arrivée, il est là, alléluia, oh, il a une bouteille d'eau, alléluia, il va te désaltérer, tu vas prendre une bonne douche là-bas, il est là. Prends courage. Et il te dit, mon enfant, prends courage, persévère. Oui, viens, vas-y, continue. Regarde pas l'histoire. Le frère a dit ce matin qu'il fallait décider. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Alléluia. Voilà l'esprit de la Pentecôte. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échec, pas de problème. Non, mes chers amis. On a autant de problèmes que les autres, peut-être encore plus que les autres, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais le problème est celui-ci. C'est que maintenant, ces problèmes ne nous arrêtent plus. Alléluia. Et on dit merci Seigneur pour ce problème maintenant. Alléluia! Oh, alléluia! Voilà l'homme rempli du Saint-Esprit. On ne dit plus, oh, encore un autre problème, qu'est-ce que je vais faire? C'est la catastrophe. Voilà, quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est cela. Et moi, ça m'arrive aussi. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on dit? Oh, formidable, formidable. Voilà un nouveau problème. Merci Seigneur, tu vas te glorifier maintenant. Alléluia! Je me réjouis de savoir comment tu vas faire. De voir comment tu vas faire, Seigneur. Amen. Voilà un homme rempli du Saint-Esprit. Et comment voulez-vous qu'une telle personne se laisse arrêter? Personne. Il persévère jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Persévérons. Le Seigneur t'attend là-bas. Il a la couronne à la main. La couronne est là. La couronne est là. Il la mettra sur ta tête. Et toi, tu la prendras et tu la mettras à ses pieds. Et tu lui diras, toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Lorsqu'il séchera nos larmes, lorsqu'il nous aura restaurés, lorsque nous serons semblables à lui, nous lui dirons, Seigneur, ça valait la peine de lutter jusqu'au bout. Oh, ça valait la peine. Maintenant, nous sommes dans ton repos. Maintenant, Seigneur, c'est la félicité éternelle. Oh, ça valait la peine. Ça valait la peine de persévérer. Ça valait la peine d'aller jusqu'au bout. Ça valait la peine de mourir pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un a dit un jour, si on vous arrête, alors arrêtez. Si quelqu'un arrive à vous arrêter, alors arrêtez-vous tout de suite, parce que vous n'irez pas loin. Mais si vous avez en vous quelque chose qui est décidé à aller jusqu'au bout, si vous avez en vous l'esprit du vainqueur, personne ne pourra vous arrêter. Amen. Alléluia. Et l'esprit du vainqueur est en vous. L'esprit du Christ est en vous. Personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, même par terre, vous êtes là, l'ennemi se réjouit de vous, mais vous dites, Satan, tu es vaincu, n'oublie pas une chose, le juste se relève tout le temps, alléluia, je me relèverai et je te taillerai en pièces, oh alléluia, relève-toi, es-tu tombé, relève-toi, relève, prends ton épée et taille l'ennemi en pièces, taille l'ennemi en pièces, ne taille pas l'oreille de ton frère. Ne coupe pas la tête à ton frère. Taille l'ennemi en pièces. Oh, alléluia. Relève-toi. Le Seigneur est avec toi. L'esprit du vainqueur est avec toi. La puissance de Pentecôte, c'est cela. Nous avons cela. Si vous êtes baptisé dans un esprit, vous avez cela. Cette puissance est là. Exerçons-la. Et glorifions le Seigneur pour la gloire de son nom et pour le bien de tous ceux qui nous entourent. Amen. Merveilleux Jésus. Oh, merci pour cette puissance de la Pentecôte. Merci pour ces effets de la Pentecôte dans nos vies. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es merveilleux.
Oui, Seigneur.
Oh, nous te donnons toute la gloire.
Maya Landor.
Alléluia.
Merci, Seigneur. Et tu veux maintenant agir au milieu de nous. Tu veux tendre ta main, Seigneur. Nous comptons sur toi, sur ton amour et sur ta compassion. À toi la gloire.
Oui, Seigneur.
Au siècle des siècles.
Alléluia.
Amen.
Alléluia.
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 Gloire Alléluia. Au Seigneur.
Alléluia. Y a-t-il plusieurs personnes au milieu de nous qui désirent le baptême dans le Saint-Esprit, qui ne l'ont jamais reçu, qui n'ont pas encore reçu?
Oh, amen.
Le Seigneur veut baptiser du Saint-Esprit
Alléluia.
Là,
Alléluia.
Tout de suite. Et tous ceux qui ont déjà reçu, le Seigneur veut les renouveler, leur donner une onction plus grande, leur donner d'autres dons aussi dont ils ont besoin pour glorifier le Seigneur, pour être utile dans le corps de Christ.
Amen. Alléluia.
Oh, no.